Le regard de l'expert.
Et on va maintenant tirer le bilan de l'équipe de Suisse tombée avec les honneurs vendredi soir en quart de finale. C'était au tir au but face à l'Espagne. Et on est avec notre confrère chef des sports de la RTS, Joël Robert. Salut Joël.
Salut Jérémy.
Joël, vous avez suivi la Nati jusque-là. Maintenant, direction les demi-finales à Londres, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Direction les demi-finales à Londres. J'aurais aimé évidemment aller commenter la Suisse, mais ça sera les autres demi-finalistes, malheureusement.
Et Joël, justement, ces dernières années, en fin de grand tournoi, puisqu'il est un petit peu question de bilan maintenant, on tirait toujours des bilans en demi-teinte pour cette Nati. 2016-2018 notamment, on parlait de bonnes phases de poule et puis derrière une déception, voire une désillusion, la Pologne, la Suède. Après ces matchs-là, maintenant, en 2021, contre la France, l'Espagne, le discours, c'est vraiment celui d'un euro réussi?
Oui, c'est celui d'un euro réussi, évidemment, même s'il y a toujours une petite pointe de déception parce qu'elle était presque cette équipe de Suisse. Elle a fait un gros match contre la France, un énorme contre l'Espagne à 10 contre 11. Et puis voilà, elle perd au pénalty. Donc, il s'en est fallu de trois fois rien que l'équipe de Suisse aille dans le dernier carré de l'euro. Ça aurait été extraordinaire. Donc, il y a quand même cette petite déception-là. Mais évidemment, vous avez raison, sur l'ensemble, l'euro est réussi parce que jusqu'à présent, l'équipe de Suisse en huitième de finale est éliminée par des adversaires largement à sa portée. Et cette fois-ci, elle a battu avec brio un adversaire qui lui était supérieur. Donc l'équipe de Suisse vraiment a franchi ce fameux pas, ce fameux palier de passer une fois en huitième de finale. Et en quart de finale, elle a fait mieux que de se défendre. Donc c'est pour cela que pour moi, évidemment, cette année, pour une fois, le bilan de l'équipe de Suisse est complètement réussi et complètement positif.
Et justement, ça c'est une nouveauté d'avoir vraiment rivalisé et même sorti une très grande nation. Mais si on laisse ça de côté, si on laisse le côté émotionnel justement, il y a quand même deux visages montrés dans cet euro. Il ne faut pas oublier que ça avait démarré en plus qu'en demi-teinte.
Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Le début d'euro a été mauvais, il faut dire ce qu'il en est. Un match nul contre le Pays de Galles alors que la Suisse devait le gagner. Et puis, il y a eu cette défaite en Italie 3-0 sans que la Suisse joue au foot. Parce que ce match-là, la Suisse ne l'a pas disputé. Il faut être clair, elle est dominée dans tous les compartiments de jeu par l'Italie. Et certes, l'Italie est une grande équipe, mais quand même, vous avez le droit de perdre un match. Mais ne pas le jouer, ça, vous n'avez pas le droit. L'équipe de Suisse ne l'a pas joué, les critiques étaient logiques. Et je crois que ce match-là a été à quelque part fédérateur pour la suite de la compétition, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions après ce match-là. Les Suisses se sont dit, si on continue comme ça, on ne bat pas les Turcs et on est éliminé. Donc il y a eu une prise de conscience, l'équipe s'est remobilisée et il y a eu réaction. Et ça, pour moi, c'est capital. Réaction, orgueil, il y a eu trois gros matchs derrière. On a parlé de la France et de l'Espagne, mais il y a déjà eu la Turquie que la Suisse a battue pour se qualifier pour la suite de la compétition.
Et Joël, quel était le bilan de l'ASF à l'atterrissage en Suisse samedi? Parce que moi, j'avais souvent l'impression ces dernières années que cette fédération finissait par se contenter de peu. On avait des désillusions, mais on disait finalement qu'il faut retenir le positif et sans vraiment avancer. Là, quel est le discours cette année?
Non, mais le discours est résolument positif et je crois que le discours des dirigeants suit le discours des joueurs. Et moi, dans les joueurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'après le match contre la France, quand on les voyait aux interviews, ils nous disaient « Bon, ok, c'est bien, on a battu la France, toute la Suisse est sans dessus-dessous, mais nous, on ne veut pas s'arrêter là. Ce n'est pas une finalité d'avoir battu la France. Nous, notre finalité, c'est d'aller le plus loin possible. Et c'est avec cet état d'esprit-là que la Suisse a fait un gros match contre l'Espagne. Et ça, c'est hyper intéressant parce que par le passé, déjà la Suisse, l'objectif atteint, c'est de se qualifier, et puis ensuite sortir des poules, et puis après éventuellement passer en huitième de finale. Et pendant très longtemps, elle a buté sur ce huitième de finale, parce que je pense qu'elle était déjà satisfaite du résultat obtenu jusque-là. Là, les joueurs n'étaient pas satisfaits du résultat, même si évidemment battre la France, c'est génial, mais ils voulaient encore aller plus loin, et cet état d'esprit-là s'est reflété sur les joueurs, sur l'équipe, et sur tout l'encadrement. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, le bilan des dirigeants de l'équipe de Suisse, évidemment, est positif, et puis financièrement aussi, c'est une bonne affaire, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qui rentre dans les caisses de la fédération si vous allez plus loin dans le tournoi que si vous êtes éliminé en phase de poule.
Et si on fait le bilan un petit peu individuel des joueurs, si vous deviez, Joël, sortir deux ou trois tops, peut-être, de cet euro des Suisses qui ont particulièrement crevé l'écran?
Bon, il y a déjà le gardien, Yann Sommer, même s'il a quand même pris quelques buts, mais Yann Sommer a été décisif dans les prolongations contre l'Espagne, décisif contre la France. Donc pour moi, Sommer, indiscutablement, fait partie des meilleurs joueurs suisses. J'ai beaucoup aimé Akanji en défense, ouais. Akanji qui a eu une saison un peu mitigée avec Dortmund, mais qui a fait un très bon euro, excellent, même s'il rate son pénalty contre l'Espagne.
Même cette charnière, Akanji Elvedi,
excellent. Ouais, c'était bien, non, ouais. La charnière était bien. Et puis Xhaka à mi-terrain, c'est sûr que contre la France, c'est tel régulateur, c'est lui qui donne la passe à Gavranovic, et il a quand même manqué en première mi-temps contre l'Espagne, Xhaka, donc ça c'est sûr. Donc pour moi, les trois ont été bons, mais c'est surtout le collectif qui m'a plu. Et c'est clair que voilà, on peut en citer deux ou trois, mais ces trois-là, sans le collectif des autres, sans l'envie d'aller plus loin de tous les autres, et même des remplaçants, des Mbappé quand il est contre l'Espagne, de Gavranovic, lui aussi fantastique durant tout l'Euro, même de Djibrilso, de Fasnacht qui va piquer le ballon à Pogba contre la France, sans ces joueurs-là, sans ce collectif, eh bien, les trois que je viens de citer n'auraient pas été à Paris honneur. Donc, c'est vraiment un collectif, je crois, aujourd'hui, qu'il faut féliciter.
À l'inverse, une ou deux déceptions ou alors demi-teintes?
Non, difficile, franchement, de sortir des joueurs en les qualifiant de décevants. Bah, contre l'Italie, il n'y a pas eu beaucoup de points positifs. Je me suis dit, ouh là là, Rodriguez était dépassé. Mais après, c'est très bien repris dans cette défense à trois. Rodriguez, ça a été bon. Seferovic a mis ses buts, Chakiri aussi. Non, il n'y a pas de joueur, pour moi, qui était en dessous, à part peut-être Cher. Mais Cher a été sorti de l'équipe rapidement après le match contre l'Italie, mais il n'avait pas eu de compétition. Donc voilà, Cher est arrivé déjà en conditions précaires et ça s'est vu sur l'Euro, contrairement à Shaqiri qui lui a presque monté en puissance alors qu'il n'avait pas beaucoup joué avec Liverpool. Mais non, moi, je n'ai aucun joueur à mettre en dessous de la barre de l'Euro réussi.
Oui, alors Shaqiri, j'ai quand même tendance à dire, dans le jeu, c'est peut-être plus le monsieur plus qu'on attendait malgré ses trois buts. Est-ce que vous parliez justement de la problématique d'être titulaire dans son club ou pas? On sait que toutes les grandes nations en font un critère quasiment déterminant. Est-ce qu'à l'avenir, la Suisse doit aussi se diriger vers cette exigence-là pour ses joueurs?
Bah, c'est difficile quand même d'être exigeant avec ces joueurs-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de réservoirs derrière.
C'est vrai. Alors,
bien sûr, Shaqiri n'était peut-être pas titulaire avec Liverpool, mais il était décisif dans cet Euro. C'est lui quand même qui marque le but contre l'Espagne. Il est là, il a beaucoup couru. Lui aussi s'est pris en main, si j'ose dire, après le match raté contre l'Italie où il était en dessous de tout, mais comme tout le monde. Et il fait partie de ces personnages qui ont émergé et qui ont été bonifiés après le match contre l'Italie. Il était bon contre les Turcs, bon contre la France et puis bon contre l'Espagne. Donc voilà. Mais c'est clair que les joueurs qui ne jouent pas en club sont de toute manière prétérités quand il y a les grands rendez-vous internationaux. Et ma foi, avec les Suisses, bon, le réservoir n'est pas énorme. Il faudra un peu s'habituer à cela. Moi, je préfère avoir un Shaqiri qui ne joue peut-être pas tout le temps avec Liverpool, mais qui est bon avec l'équipe de Suisse, plutôt que mettre quelqu'un d'autre qui joue tout le temps en Super League, mais qui n'a peut-être pas le niveau. Il y a le talent aussi des joueurs, il ne faut pas l'oublier. Shaqiri, c'est un talent, qu'on le veuille ou non.
Et en dehors de Yann Sommer, aucun joueur dans le 11 n'a la trentaine. Ça veut dire, Joël, qu'on va avoir un groupe qui va très peu évoluer, sans doute d'ici la Coupe du Monde au Qatar. C'est déjà l'an prochain.
Bon, ça, c'est clair que le groupe ne va pas évoluer parce que les qualifications ont déjà débuté. La Suisse a fait 2 matchs, 6 points. Pas facile d'aller au Qatar. On ne s'est encore pas fait. Il n'y a que le premier du groupe qui y va.
Et on va retrouver l'Italie, notamment.
Ouais. On va retrouver l'Italie. Il y a 13 équipes européennes au lieu de 24. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'aller au Qatar. Mais c'est vrai que le groupe ne va pas beaucoup évoluer. Il y a peut-être 2-3 joueurs qui vont faire leur apparition. Lotomba, Omer Agic, qui sont venus et qui ont aussi emmagasiné de l'expérience. Même s'ils n'ont pas joué, ils ont vécu durant un mois dans ce groupe qui a fait un super Euro. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour répondre à votre question, non, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Tous ceux qui étaient à l'Euro 2021, vont encore aller au Qatar 2022. Après, il risque d'y avoir peut-être une coupure. Je ne sais pas si Rodriguez va continuer. On ne sait pas ce qu'il va devenir de certains joueurs en club. Mais pour aller au Qatar, parce que Qatar, c'est demain. Enfin, c'est demain. C'est dans 13-14 mois. Donc voilà, le groupe ne va pas changer.
Ça plaide aussi, ça, pour une continuité avec Vladimir Petkovic. On sait qu'il a un contrat jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et à la fois, on se dit aussi, ça fait déjà depuis 2014 qu'il est là. Est-ce qu'il n'y a pas le risque à un moment que le projet de jeu aussi ne s'essouffle avec un seul et même homme, même si aujourd'hui c'est une réussite son Euro?
Non, mais forcément Petkovic sera aussi grandi de cet Euro. L'ASF aimerait le conserver, c'est certain. Lui, je ne sais pas s'il a envie de rester. Il n'a pas tranché formellement. Je sais qu'il aimerait bien reprendre un club, mais est-ce que ça sera maintenant ou plus tard? Il va avoir des offres, ça c'est certain. Il faut un temps de réflexion. Je ne vois pas quitter l'équipe de Suisse quand même entre nous, juste maintenant, avant la suite des qualifications, parce que 5 septembre, il y a déjà l'Italie à Bâle.
Oui.
Donc voilà, le 5 septembre, c'est dans quelques semaines. Donc, je ne vois pas quitter le navire maintenant. Mais c'est vrai que voilà, Petkovic a aussi évolué dans sa façon d'être avec ses joueurs, dans sa façon de communiquer. Une chose qui n'a pas changé, c'est son jeu. Petkovic, depuis toujours, est fidèle à ses principes, à ses joueurs. Il a son 11 de base, il ne fait que très peu de changements. Regardez, Jack a suspendu, il fait entrer Zakaria. Et c'est tout. Donc, il a son système de jeu, il a sa tactique. Ce n'est pas Deschamps qui change tous les matchs, 3 ou 4 joueurs. Voilà, Petkovic a sa ligne de conduite, a sa tactique, et elle a porté ses fruits. Pour moi, il n'y a pas de raison pour l'instant, en tout cas, de le changer.
Joël, un mot sur les demi-finales, parce que vous atterrissez à Londres cet après-midi. Une Italie qui, disons-le, jusque-là quand même nous a enchantés. Une Angleterre qui va tout jouer à la maison maintenant. Ce sont aussi vos deux favoris ou vous pouvez encore voir une surprise là-dedans?
Moi, je me méfie beaucoup du Danemark. Je me méfie beaucoup du Danemark parce que l'Angleterre a marqué 4 buts, c'est vrai, contre l'Ukraine, mais elle ne m'a pas encore impressionné jusque-là.
Moi non plus.
Elle ne prend pas de but, c'est vrai. Le Danemark est une vraie équipe. Ces Danois ont un coup d'enfer avec Eriksen et ça a soudé le groupe. Je pense qu'ils peuvent aller très très loin, mais pour moi, le favori reste l'Italie. Je pense que l'Italie va battre l'Espagne et pour moi, ça reste le favori de l'Euro. C'est invaincu depuis plus de 30 matchs, ça prend très peu de buts, c'est fiable, c'est un jeu intéressant, il y a un très bon entraîneur. Moi, je vois l'Italie aller très loin.
Et alors, je ne sais pas si it's coming home pour la Coupe, mais en tout cas, pour l'équipe, elle va tout jouer à domicile maintenant, l'Angleterre. Ça va être une ambiance particulière dans ce que vous allez suivre maintenant.
Bon, il y aura quand même 60 000 personnes à Londres, donc ça va être une grosse ambiance. Mais c'est vrai que l'Angleterre était clairement avantagée. À part le match à Rome des huitièmes de finale, elle aura fait tous ses matchs à domicile, contrairement aux 20 000 km qu'a fait par exemple la Suisse en avion. Donc de ce côté-là, c'est vrai que l'Angleterre a été favorisée, ça c'est certain, de jouer tout le temps à la maison.
Merci beaucoup Joël Robert d'avoir été avec nous dans le Café de l'Euro. Bonne suite de tournoi.
Merci beaucoup, bonne suite d'émission, à très bientôt et au plaisir.
Merci Joël, et puis le Café de l'Euro, ça revient demain avec la première demi-finale entre l'Espagne et l'Italie. Rendez-vous 13h, à demain.
Le Café de l'Euro.